Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jocelyne Moussa au Pôle pour le journal.
Différentes réactions au lendemain du discours de Joseph Kabila à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Vous entendrez dans ce journal les avis de la classe politique congolaise. Présentation hier à Kinshasa du plan de développement de la province du Tanganyika. Il faut plus de 3 milliards de dollars américains pour développer cette province à l'horizon 2020. Docteur Eugénie Missenga, chef de division provinciale de la santé au Kasaï central, est notre invité ce matin. Bonjour à tous. La majorité présidentielle salue le discours du président Joseph Kabila à la 73e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour son porte-parole, la RDC, à l'instar d'autres nations du monde, a le droit non seulement d'accepter la solidarité internationale, mais aussi de la refuser. Allusion faite à la demande du président Kabila de voir la MONUSCO amorcer son retrait du pays. André Chalin Atundu s'est ainsi exprimé hier dans un point de presse à Kinshasa. Il est au micro de John Bompengu.
La majorité présidentielle salue la volonté du président Kabila, proclamée du haut de la tribune des Nations Unies à New York, d'honorer sans complexe son mandat constitutionnel de garant de la nation jusqu'à la passation de pouvoir sans considération de manœuvre de diversion des ennemis de notre démocratie, mais en ayant plutôt à l'esprit les intérêts majeurs du peuple congolais. La solidarité internationale est un droit légitime reconnu à chaque État, certes. Mais cette solidarité n'est pas pour autant une obligation contraignante imposée aux États malgré leur volonté. A contrario donc, chaque État a le droit non seulement d'en réclamer le bénéfice, mais aussi d'y mettre fin et d'y renoncer au nom de la souveraineté des États reconnue par la Charte des Nations Unies. Dans cet ordre d'idées, la majorité présidentielle soutient la demande exprimée par le président Kabila à l'Assemblée générale des Nations Unies au nom du peuple congolais de commencer effectivement le retrait progressif et significatif des troupes de la MONUSCO.
Les forces politiques alliées à l'UDPS, elles, demandent à la MONUSCO de maintenir ses troupes en RDC jusqu'à la stabilité du pays. Au sujet du processus électoral, elles appellent la CENI à mettre de côté la machine à voter et à nettoyer le fichier électoral. Laurent Batumona, coordonnateur de cette plateforme, l'a déclaré à la presse hier mercredi à Kinshasa. Laurent Batumona, dans cet extrait, sélectionné par Paul Matendo.
Pour ce qui est du processus électoral, les forces politiques alliées à l'UDPS rejettent l'utilisation de la machine à voter et du fichier électoral corrompu, tout en exigeant à la CENI la soustraction de 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Les forces politiques exigent la décrispation politique à travers la liberté de manifestation et l'organisation des meetings politiques, ainsi que la libération des prisonniers politiques et des exilés, ainsi que l'accès aux médias officiels. S'agissant du discours du président Kabila à la 73e session à la tribune des Nations Unies, il s'est avéré qu'il n'y a aucun élément nouveau par rapport à la sécurité et au processus électoral. Quant à la MONUSCO, elle demande que les Nations Unies continuent à maintenir ses forces jusqu'à la stabilité totale du pays.
Pour sa part, l'Association congolaise pour l'accès à la justice dit ne pas partager la demande du président Joseph Kabila relative au retrait de forces de la MONUSCO. Cette requête du chef de l'État renvoie à ignorer les différentes interventions et participations des casques bleus contre les forces rebelles à l'Est, affirme ACAJ. Pour son président, il faut plutôt évaluer la coopération en vue d'un réajustement face aux nouveaux défis. Quant à l'organisation des élections à la date fixée, ACAJ émet plutôt des réserves. Maître Georges Kafiamba est joint par
On ne peut pas promettre l'organisation des élections crédibles le 23 décembre tout en demandant le désengagement de la MONUSCO qui a, entre autres, comme mandat aussi l'appui logistique qui doit être apporté au processus électoral. Donc, en refusant cet appui par le départ souhaité de la MONUSCO, on voudrait affaiblir encore le processus lui-même qui, jusqu'à ce jour, n'offre pas de garanties quant à sa solidité. On ne peut pas avoir des élections crédibles lorsque on sait qu'il n'y a jamais eu jusqu'à ce jour de consensus sur l'utilisation des machines à voter et qu'il ne s'est pas investi aussi pour que la CENI nettoie comme il se doit les enrôlés litigés qui s'élèvent à 16,6% et que les prisonniers politiques n'aient pas été libérés. Entre-temps, on arrête d'autres, on condamne d'autres.
Politique encore, 74 milliards de dollars américains, c'est le coût global estimé pour réaliser le projet de société du professeur Freddy Matungulu, une fois élu président de la République aux élections du 23 décembre prochain. Ce candidat présidentiel a présenté hier, mercredi à Kinshasa, son projet de société devant la presse et plusieurs cadres et militants de son parti politique, Congo Nabisso et regroupement politique Sienko. Pour Freddy Matungulu, son projet de société vise entre autres une croissance économique inclusive et durable, génératrice des emplois et des revenus. Freddy Matungulu, micro d'Askin Zigbataïro.
Compte tenu des hypothèses macroéconomiques pertinentes pour la période de projection, le projet de société Congo Nabisso Sienko estime le coût d'un programme réaliste de la reprise de l'économie congolaise à 74 milliards de dollars américains pour le quinquennat 2019-2023, soit une moyenne annuelle de 14,8 milliards de dollars américains. En résumé, le projet de société Congo Nabisso comporte trois grands axes. Premièrement, créer un contexte institutionnel et sécuritaire de responsabilité favorable aux investissements. Deuxièmement, bâtir une économie de forte croissance inclusive, créatrice de nouvelles opportunités d'emploi et de revenus. Enfin, affronter les défis du social et de la solidarité nationale grâce à des politiques sociales, d'éducation et de santé volontaristes. Le projet de société n'est pas une fin en soi. Le projet de société ne devient réalité tangible que quand il est bien exécuté.
L'actualité, c'est aussi cette inquiétude exprimée par le mouvement citoyen congolais Debout au sujet de la détention illégale et en secret de 7 de ses membres depuis le 11 septembre dernier par le service des sécurités ici à Kinshasa. Le porte-parole de ce mouvement citoyen l'a dénoncé hier mercredi au cours d'un point de presse. Les jeunes membres de ce mouvement citoyen réclament avec force la libération de leurs collègues qui sont privés d'accès à leurs avocats. Maître Hervé Diakessé, porte-parole de ce mouvement, le dit au micro d'Askin Zigbataïro.
C'est assez inquiétant que des jeunes gens manifestent contre la machine à voter et se retrouvent aujourd'hui en détention secrète. Ils ne sont toujours pas libérés et n'ont même pas droit à l'accès à un avocat. Et ça, c'est des violations manifestes de nos lois et ça constitue en soi-même des indices des crimes contre l'humanité. Parce qu'une détention illégale, une détention secrète, des persécutions contre des activistes de mouvements citoyens, quand ça s'inscrit dans une politique générale de répression, eh bien, ce sont des indices des crimes contre l'humanité. C'est cette alerte que nous voulions lancer. Nous avons mené des actions de légalité, saisir les autorités judiciaires, notamment le procureur général près de la Cour de cassation, pour que lui-même se saisisse de cette affaire, afin soit d'amener nos amis vers un parquet et qu'on sache réellement ce qui leur est reproché. Parce que si le but d'arrêter nos amis, c'était de nous décourager pour arrêter de nous mobiliser contre la machine à voter, mais au contraire, là, nous allons davantage mobiliser contre la machine à voter, parce que c'est notre droit. Nous ne sommes pas des casseurs, nous ne sommes pas des Kuluna, nous exerçons nos droits des citoyens.
Je l'ai dit en titre, plus de 3 milliards de dollars américains, c'est le budget à mobiliser pour développer la province du Tanganyika à l'horizon 2022. C'est ce qu'a déclaré le ministre provincial du plan de cette province hier dans la capitale. C'était à l'occasion de la présentation du plan de développement du Tanganyika. John Banza revient ici sur les axes prioritaires de ce plan. Il est au micro de Paul Matendo.
Le premier axe concerne le renforcement des institutions, la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Le deuxième axe concerne la création des bases d'une croissance forte, résiliente, inclusive et durable. Le troisième axe concerne le développement des infrastructures de soutien à la croissance, ainsi que le quatrième axe qui tourne autour de l'amélioration des services sociaux et du développement des ressources humaines. Ce que je viens de donner constitue en fait l'essentiel du programme du plan provincial de développement, qui est la première partie de cet arsenal de développement. La deuxième partie de l'arsenal, c'est le programme d'action prioritaire. Le programme d'action prioritaire, c'est en fait la matérialisation de la vision en des termes pratiques.
Et on va recevoir l'invité de cette édition, comme annoncé à l'ouverture de ce journal, Dr Eugénie Misenga, chef de division provinciale de la santé au Kasaï Central, est notre invité. Elle nous parle des activités de la revue semestrielle de soins de santé primaire tenue du 18 au 22 septembre à Kananga. À la suite de celle-ci, elle explique que les acteurs sanitaires ont indiqué qu'il y a une prédominance de la malnutrition et du paludisme dans la province. Dr Eugénie Misenga s'entretient avec François Kadima.
Docteur Eugénie Misenga, bonjour.
Bonjour.
À la suite de la revue semestrielle des soins de santé primaire, quel est le tableau de la situation sanitaire dans la province par rapport à certaines maladies?
C'est vrai que la situation générale par rapport à certaines maladies, elle reste marquée par la malnutrition qui prédomine, le paludisme ou la malaria, qui est la maladie la plus meurtrière et celle qui amène le plus de patients en consultation. Nous avons connu également des cas de choléra dans la zone de santé de Benachadi, de Mwechi, mais la riposte que nous avons pu organiser avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers nous a permis de maîtriser la situation au niveau du système de santé, parce que l'analyse ne constitue pas seulement à regarder la lutte contre la maladie, mais c'est aussi la gestion générale du système de santé, où on a noté une amélioration pour certains indicateurs et un trait à la gestion du système, mais dans le contexte prédominant d'après-conflit, donc beaucoup de choses sont à refaire. Comme vous le savez bien, nous avons eu de très mauvais souvenirs des événements comme une poursuit le système de santé, où nous avons perdu plus de 100 structures de santé qui ont été pillées ou saccagées et 30 qui étaient complètement détruites, et à ce jour l'air est à refaire. Mais il y a eu quand même quelques appuis qui ont aidé la province à pouvoir réhabiliter certaines de ces structures-là.
Parlons un peu de la malnutrition et la malaria. Les tableaux semblent être sombres. Qu'est-ce qui sera à la base de cette situation?
Déjà, lorsqu'on a fait les enquêtes EDES en 2013-2014, la situation de la malnutrition au niveau de la province était déjà très mauvaise, parce que la malnutrition chronique était à des taux très élevés, autour de 52%. Les tableaux étaient mauvais. Sont venus s'ajouter les événements comme une ansapou, avec les déplacements de population, avec la perte de presque 2 à 3 saisons culturelles, parce que lorsque les gens se déplaçaient, ils ne pouvaient rien faire. Et aussi, en dehors du fait qu'ils se déplaçaient, il y avait des villages entiers qui étaient saccagés et brûlés. Donc, les gens ont tout perdu. Et lorsqu'ils sont revenus, les enfants et les femmes enceintes, qui sont les personnes les plus vulnérables, sont les premiers à succomber, parce qu'il a fallu du temps pour se refaire avant de commencer à pouvoir récolter quelque chose à mettre sur la dent.
Est-ce que les soins de santé ont pu vous donner quelques données chiffrées par rapport à la situation dans la province?
Il y a eu des enquêtes qui ont été menées dans 3 territoires de notre province par rapport à la situation de la malnutrition. C'est le cas du territoire de Dibaya, ou dans quelques 2 zones, Dibaya et puis Lubondai, et puis territoire de Demba également. Les enquêtes ont été réalisées. Les résultats sur l'état de malnutrition aiguë sévère sont au-delà même des normes connues par les pays, donc au-delà de 2%. Donc c'est déjà une situation très très grave de malnutrition.
Au niveau de la division provinciale de la santé, qu'est-ce que vous faites en termes de plaidoyer pour une réponse rapide face à cette situation?
Nous ne faisons pas seulement les plaidoyers, mais nous agissons également par le dépistage, par la prise en charge des cas de malnutrition, parce que nous avons des partenaires qui nous sont venus en aide pour certaines zones de santé qui ont intégré la prise en charge intégrée de la malnutrition, où les malnutris graves, sévères, hospitalières sont prises en charge dans les structures de santé. Il y a également des partenaires qui sont intervenus dans la prise en charge des malnutritions aiguës modérées dans les ménages. Mais la réponse apportée est loin d'être encore une solution jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus que plusieurs situations entrent en ligne de compte. Les gens ne cultivent pas beaucoup chez nous. Nous plaidons pour qu'il y ait des projets multisectoriels.
Alors par rapport à la malaria, vous disiez qu'il y a également une situation qui semble être dramatique dans la province.
Après, la situation, elle est toujours sérieuse dans la province, d'autant plus que la première cause de consultation dans notre milieu, c'est le paludisme. Mais aujourd'hui, nous notons de manière générale un approvisionnement insuffisant en antipaludéens de première ligne.
Docteur Jérémy Senga, Radio Capi vous dit merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.